Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
La radio, la transmission sans fil par radiodiffusion, n'est pas née du jour au lendemain. Avant que le festival de Bayreuth, Hamlet et le Tour de France ne s'invitent dans le salon de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, il aura fallu, au fil des années, les découvertes et les inventions de quelques savants et bricoleurs de génie. Guglielmo Marconi ne peut donc pas être considéré comme l'inventeur de la radio, en tout cas pas le seul. Mais ses expériences de transmission hertzienne sur de longues distances marquèrent une étape capitale dans l'histoire de la radio. À ceux que le nom de Marconi, associé à celui de Pathé, n'évoque pas beaucoup plus que la voix de son maître, le numéro de « Un homme, une ville » que nous allons entendre fera découvrir la vie et l'œuvre du prix Nobel de physique de 1909. Un prix partagé avec Ferdinand Braun en reconnaissance de leur contribution au développement de la télégraphie sans fil, autrement dit la TSF. Un homme, Guglielmo Marconi, une ville, Bologne, où il était né en 1874. La découverte de la transmission par les ondes, la naissance d'une invention, premier épisode d'une série de trois, une émission de Thierry Garcin, diffusée pour la première fois le 2 mai 1980. Avec notamment Pierre Schaeffer et Denia Marconi, fille de Guglielmo, dont Magie de la radio, on peut entendre aujourd'hui la voix dans cette archive.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la radiodiffusion française vous invite à écouter ce soir.
Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle.
Un homme, une ville, un homme, un espace, celui des ondes, Guglielmo Marconi, 1874-1937.
Bonjour mes chers auditeurs, bonjour.
Bonjour.
Première de trois émissions, la découverte de la transmission par les ondes, ou la naissance d'une invention.
La radiodiffusion française présente une production de France Danieli, Au-delà des mers.
Avec comme médiateur Pierre Schaeffer, ancien directeur de la recherche de
l'ORTF présente
l'ORTF,
l'invité de la 11e heure.
Est-ce que vous aimez les chansons ?
Préparation Thierry Garcin, réalisation Jean-Claude Loiseau.
Bonsoir et à demain, si vous le voulez bien.
Guglielmo Marconi avait 21 ans lorsque, dans sa région natale de Bologne, il lança le premier signal radio qui put contourner un obstacle. C'était au printemps 1895, d'une fenêtre du premier étage de la villa paternelle, il confia aux ondes ses traits et ses points morses qui furent reçus derrière une large butte située quelques 800 mètres plus loin. Recueillant les fruits de multiples et convergents travaux théoriques sur lesquels avaient précédemment planché des savants qui ne s'étaient guère souciés des applications, Marconi y perçut tout de suite la portée, sinon la trajectoire de ces ondes. La TSF allait bientôt naître, puis la radio, qui nous permet de lui consacrer cette série d'émissions, juste retour des choses.
La Voix de l'Amérique.
Très tôt, parti pour la Grande-Bretagne, qui ne lui était pas étrangère, il assuma sans rechigner son rôle à la fois d'inventeur, on devrait dire aussi de découvreur, mais aussi d'industriel et de commerçant. Dur en affaires, des lettres à son père le laissent entendre, doué d'une grande organisation intellectuelle, comme aime à le dire Mario Baldini, secrétaire général de la Fondation Marconi à Bologne, il était pourvu d'une culture générale peut-être moins étendue qu'on ne l'imaginerait. Son noble visage d'oiseau de haut vol bénévoles, des mains d'artisans, une crainte relative de la familiarité, d'incessants séjours en mer sur son bateau Elettra, long de 120 mètres. Il traversera l'Atlantique près de 80 fois. Beaucoup de traits disaient en lui non pas l'entêtement, mais l'obstination créatrice. Avec un côté prophétique, à la fin de sa vie, il s'intéressa aux communications interstellaires et aurait vu avec joie l'apparition du radar. Qu'il eût disparu 20 ans plus tard, à 83 ans, il aurait entendu les bip-bip du Spoutnik.
All'inizio, cioè dei miei primi esperimenti, io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
Pierre Schaeffer, la voix qu'on entend bien sûr, c'est celle de Marconi qui est en train d'expliquer sa grande intuition. Et c'était donc dans l'année 1895.
D'où le fait que la galaxie porte son nom, la galaxie Marconi. Mais tout le monde sait que c'était aussi bien celle de Hertz ou de Branly, de Lodge et de Popov que revendiquent les Russes, ou de Tesla ou de Ducreté. Moi, je pense que la roulette du génie a tourné dans le damier des circonstances et que le numéro gagnant, c'est Marconi. Ben, pourquoi pas Marconi? Mais une première question se pose. Dans cette pléiade d'inventeurs de génie, dont chacun fut nécessaire, pourquoi Marconi? Alors, cherchons d'abord des dates, des points de repère, des événements mémorables. En fait, ces géniteurs allait offrir leur commune invention au XXe siècle à son berceau. C'est en mars 1900 que la Marconi's Wireless Telegraph and Signal Company est fondée, la MWTC. La galaxie était une administration, une compagnie, un monopole, qu'on dénommait déjà à l'époque le marconisme. Ou bien faut-il dater de l'an d'avant, le scoop qui consacra la renommée mondiale de l'inventeur, qui se doublait d'un navigateur, et pas solitaire, et d'un reporter en quelque sorte. C'est en effet Marconi qui a installé la TSF à bord du bateau Grande Duchesse et qui donna pour la première fois au monde, à travers l'océan, les nouvelles de l'America Cup. Ou alors, faut-il dater la consécration de 6 mois auparavant, après le fameux télégramme à travers la Manche, que le gagnant envoyait à son rival, un nommé Branly. On peut voir au musée de l'ORTF la copie conforme de ce télégramme daté du printemps 1899. Télégramme parti de Douvres en Angleterre, reçu en France à Vimereux.
Où tous les mots sont importants.
Tous les mots sont en vie, doit être pesé. Voilà le texte. Monsieur Marconi envoie à Monsieur Branly ses respectueux compliments par le télégraphe sans fil à travers la Manche. Ce beau résultat étant dû en partie aux remarquables travaux de Monsieur Branly. Messieurs les Anglais tiraient les premiers. Commentaire de Branly, M. Marconi est un honnête homme.
À la fois père d'une découverte, la transmission par les ondes dont le brevet de 1900 portera le célèbre numéro 7777, et tuteur d'une invention, la télégraphie sans fil, Guglielmo Marconi se sera lancé dans l'aventure avec une étonnante prescience. Technicien de génie, il fut aussi industriel et gestionnaire. Pour mieux cerner les traits de Marconi, nous avons rencontré sa fille, Madame Marconi. Madame Marconi habite Rome, au bord du Tibre, juste en face du Gianicolo, où son père résida. Son témoignage important, subtil, discret et ferme en même temps, nous fera mieux comprendre la valeur de l'œuvre par l'intimité de l'homme. Il faut préciser que Madame Denia Apparecce Marconi est l'auteur d'un ouvrage, Marconi mon père, publié en Italie et aux États-Unis.
Mon père est né en 1874 à Bologne. Et donc, quand il a fait ses premières recherches, il était très jeune, il avait 19, 20 ans.
Juste avant de partir pour Londres, on dit, Madame Marconi, que votre père était extrêmement imaginatif, mais qu'il a fait quand même des études brillantes. Est-ce que c'est exact?
Pas brillante du point de vue de l'école, parce qu'il n'aimait pas beaucoup aller à l'école et il n'a jamais suivi des cours réguliers. C'était ce que mon grand-père n'aimait pas du tout, parce que son père voulait qu'il fasse un travail, qu'il étudie, qu'il aille à l'université, chose qu'il n'a pas faite. Il allait très d'accord avec sa mère, qui l'aidait toujours dans ses recherches, oui, parce que il avait besoin de matériaux, de choses que mon grand-père, quand il les trouvait, ne lui donnait pas. Et alors sa mère l'aidait.
Son père était originaire de quelle région en Italie ?
De Bologne.
De Bologne même ?
Oui.
Et votre grand-mère paternelle, la mère de Marconi, était d'origine...
Écossaise-irlandaise, d'une famille écossaise qui était allée en Irlande. Et elle était née en Irlande. Elle est venue à Bologne pour étudier le chant. Elle avait une très belle voix. Et elle étudiait le chant à Bologne quand elle a rencontré mon grand-père, qui était veuf. La famille ne voulait pas qu'il épouse cette jeune fille, je crois pour la différence, parce qu'elle était anglaise ou elle était irlandaise. Et aussi la famille irlandaise ne voulait pas qu'elle... Mais ils étaient très amoureux et ils se sont mariés étrangement à Boulogne-sur-Mer.
Est-ce que votre père vous parlait par exemple de cette frontière quand même dans sa vie qui a été le départ pour Londres en 1896, oui. Où il avait à peu près 20 ans.
Oui, je crois qu'il a toujours trouvé beaucoup d'aide en Angleterre et il a tout de suite pu faire beaucoup plus d'expérimentation. Et il a toujours aimé beaucoup l'Angleterre. Il était très divisé entre l'Angleterre et l'Italie.
Est-ce qu'il avait proposé, avant de partir pour l'Angleterre, est-ce qu'il avait proposé ses services aux autorités italiennes?
Oui, au gouvernement italien. Il avait écrit une lettre au directeur de la poste ici en Italie parce qu'il lui semblait que son invention pouvait intéresser surtout le ministère de la poste parce que c'était communication, n'est-ce pas? Mais ils n'ont jamais répondu ou ils ont répondu pour dire que ça ne leur intéressait pas. Alors il a décidé d'aller en Angleterre, aussi parce que l'Angleterre avait en ce moment une marine très importante. Et alors il a pensé que la marine avait besoin de communiquer plus que peut-être l'Italie dans ces temps-là.
Et puis lui a eu besoin de la marine puisque beaucoup d'expériences ont été faites à partir de mâts de navires
oui,
qui servaient d'antenne.
Oui, alors ça a été une raison de plus que l'Angleterre en ce moment était importante pour lui.
Est-ce que, par exemple, il avait le sentiment d'avoir été tout de même, d'une part, très précoce dans sa réussite et son intelligence des ondes, et d'autre part, d'être, si vous voulez, tombé dans le siècle au bon moment? Je veux dire que c'est à ce moment-là, lorsqu'il avait 20 ans, 30 ans, où tout s'est dénoué et où beaucoup d'efforts qui venaient de toutes parts en Europe se sont réalisés, en tout cas.
Oui. Il a eu beaucoup de chance. Parce
d'être né à cette époque-là.
À cette époque-là, exactement. Oui. Ça aurait été bien différent, surtout parce que je crois, dans ces temps-là, un homme seul pouvait arriver à faire une chose comme ça. Maintenant, ce n'est plus la même chose. C'est plus un travail d'équipe maintenant, n'est-ce pas? Le travail de mon père était solitaire.
Arriva il farmaco che sconfigge la cellulite.
Molto facilmente troverete che se c'è qualcosa che non va.
Philippe Leroy, Michel Morgan, le grandi manovre. Dopo Telecarlino, ultima ora per Cinema Notte, il film La calda notte.
La sezione fallimentare del Tribunale civile di Roma ha decretato oggi il fallimento improprio in pratica.
S'il est un endroit où l'ombre portée de Guglielmo Marconi est grande, c'est bien à Pontecchio, bourgade située à une dizaine de kilomètres de Bologne. Bologne, grand centre universitaire, ce serait historiquement la première université d'Europe, et vaste haut-parleur ou caisse de résonance, puisque radios et télévisions locales s'y livrent une concurrence qui aurait peut-être donné le vertige à Marconi lui-même.
Laboratorio di ricerca Elida.
Signal contiene del fluoro stabile. Signal è provato in clinica.
Io faccio a tutti più l'augurio anche di una serena e di una gioiosa domenica. Buonasera. Oh, oh, oh.
C'est à Pontecchio qu'eut lieu la première expérience. C'est là que Marconi est enterré, au creux de la colline où se dresse la villa familiale, la Villa Grifone. Une fondation, Marconi, a été créée qui perpétue la mémoire du savant et accueille, devant les premiers monts des Apennins, et tout contre une petite vigne, les chercheurs étrangers. Mario Baldini en est le secrétaire général. Monsieur Baldini, on est exactement devant la maison donc de Marconi, où il a passé toute une partie de sa jeunesse.
Il est venu ici lorsqu'il était enfant, et puis il est resté ici jusqu'au premier jour de l'année 1896.
Il avait 22 ans quand il est parti à peu près.
Il avait 22 ans et il est parti d'ici après l'expériment de la colline dei Celestini, qui est celle-là.
Alors on peut peut-être décrire quand même d'abord la bâtisse, qui est une belle maison d'un ancien de son père,
oui.
Propriétaire terrien riche quand même.
Oui, c'est riche. Surtout, il a été très, très économe. Oui. Il avait toujours des idées nouvelles d'agrandir sa propriété. Ici, il avait déjà tous ces terrains que vous voyez là, ce sont tous à Marconi. Ils sont encore à la famille de Marconi. Ce sont 3 hectares ici. D'ici en bas. Pour où il y a les tombeaux.
Alors c'est une grande maison jaune avec des volets verts d'eau et des tuiles, bien sûr,
oui.
Qui est contre la montagne, en fait. Il y a 2 ou 3 kilomètres, il y a les Apennins qui sont en train de finir,
oui.
Et de l'autre côté, c'est la plaine. Donc
c'est la plaine, oui.
Vers la mer.
Si, la plaine qui va maintenant, c'est la direction de l'ouest. Alors, dans la villa, il avait fait ses premières études qu'il avait développées dans les arbres à eau. Il avait des appareils absolument simples,
rudimentaires. C'est d'ailleurs, on voit une inscription sur le deuxième étage de la façade, et c'est la seule d'ailleurs, curieusement.
C'est la chambre de laquelle Marconi a fait partir les premières transmissions, on pourrait dire comme ça, qui étaient directes de l'autre côté de la collina dei Celestini, qui s'appelle celle-là.
Et l'inscription dit en italien.
Di qui Marconi, d'ici Marconi, lanciò il primo segnale radio, primavera 1895.
Il lança le premier segnale radio.
Radio, oui. Dans le printemps de 1895. C'est passé comme ça. Il était d'accord avec son frère, qui était plus ancien que lui, et avec un paysan qui travaillait ici. D'aller avec l'appareil de réception, c'est un appareil rudimental naturellement, de l'autre côté de la colline, et voir et attendre les bruits qu'on pouvait entendre dans cette boîte. Ils sont partis, et lui est allé là-dessous, en haut à la fenêtre, où il a fait
le signal
lorsqu'il a vu qu'ils étaient déjà de l'autre côté de la colline. Il ne les voyait plus. À un certain moment, dans la boîte, les frères de Marconi ont entendu 3 coups. Et ils ont entendu les bruits, ils ont compris que c'était vraiment la transmission, c'était possible, et ils ont tiré un coup de fusil qu'ils avaient avec eux. Parce qu'on ne les voyait pas, Marconi, de là, a entendu les coups de fusil. C'était la première transmission.
Avec des
obstacles.
Oui.
C'est une grande différence. C'est-à-dire, avant, jusqu'à ces heures-là, les transmissions se vérifiaient directement.
Droite, oui.
Et on pouvait se voir.
Et c'est quand même un trait de génie aussi d'avoir vu tout de suite, à partir de cette expérience, tout ce qui pouvait en découler.
Tout de suite, il a compris ça. Parce que vous savez, moi je crois que c'est le bonheur de Marconi, c'était de n'être pas submergé par la science officielle, qui est naturellement toujours ce qui vous arrête dans les études. Alors ça lui a permis d'avoir le courage de faire des choses que personne ne croyait pas possibles.
Il signorino mi disse,
Lo vedi questo martelletto? Se lo senti battere 3 volte, tu spari un colpo di fucile in aria. Allora io rimasi dall'altra parte della collina e quando il martelletto picchiò 3 volte, sparai il colpo di fucile in aria.
Autrement dit, après cette expérience, dont nous avons quelques échos lointains, un peu gris mais touchants, l'élève ingénieur Marconi a égalisé le score de ses prédécesseurs. Et rappelant qu'il a 21 ans, il lui reste donc 4 ans pour arriver en tête. Et avant de décrire le sprint, il faudrait décrire le peloton. Je crois qu'il faut distinguer 2 sortes de physiciens. Il y a ceux qui pensent avec la tête, et comme dirait Denis de Rougemont, ceux qui pensent avec les mains. Parfois c'est dans le même homme, n'est-ce pas? Mais les grands noms dans le souvenir des gens sont spécialisés. La postérité retient plus volontiers un aspect des uns, un aspect des autres. Alors pour les uns c'est les grandes idées, pour les autres c'est les façons de faire, les astuces, les habiletés. Les premiers s'appellent Newton, Maxwell, Einstein. Et en somme, leurs idées, leurs théories, ce sont des minerves qui leur sortent tout armées de la tête. Il leur suffit de voir tomber une pomme, d'écrire une équation, la pomme se met à ressembler aux planètes, et l'électricité, comme on a vu, se met à ressembler au monde des sons. Alors pour les autres physiciens, dont le génie est inventif, ils trouvent des petits appareils, ils trouvent des morceaux d'expérience, et pour ce qui nous occupe, la galaxie Marconi, on imaginerait volontiers, dans un espèce de laboratoire de la trouvaille collective, une queue leu-leu, une file d'attente, où tous ces grands hommes s'approcheraient, par ordre d'entrée en scène, comme on dit, chacun porteur d'un petit présent, d'une pièce détachée. Alors ils sont plusieurs, et par ordre d'entrée en scène, regardons ce qu'ils tiennent dans leurs mains.
Pour l'Afrique occidentale, axe Abidjan, nous cessons d'émettre dans les 19 mètres. Notre programme continue dans les 16 mètres sur 17 720 kHz et dans les 13 mètres sur 21 675 kHz. Sur l'axe Dakar, nous émettons dans les 19 mètres sur 15 300 kHz.
Hertz, 1887, il n'a presque rien. Il s'est coupé un petit bout de fil métallique d'environ 1 mètre. Il en a fait une boucle, ça fait environ 35 cm de diamètre, en prenant soin de laisser les 2 extrémités distantes, presque se toucher, mais distantes quand même, d'une fraction de millimètre. C'est dans ce vide subtil qu'éclate par sympathie l'étincelle et on ne la voit qu'à la loupe.
Pour les pays du Maghreb, nous cessons d'émettre dans les 31 mètres. Notre programme continue dans les 25 mètres sur 11 845 kHz et dans les 19 mètres sur 15 300 et 15 315 kHz.
L'accessoiriste suivant, tout le contraire, c'est Tesla. C'est un croate, n'est-ce pas, qui passe d'Europe centrale à New York, séjour à Strasbourg. Alors il faut se représenter tout à fait autrement que Hertz. Ses présences sont gigantesques. C'est pas des petits bouts de fil de fer, c'est une énorme bobine d'induction, il faut 4 hommes pour la pousser. C'est le père putatif des émetteurs géants. Hertz travaille dans les petites longueurs d'onde qui se réfléchissent sur un bouclier, n'est-ce pas, sur une cymbale. Mais Tesla s'offre des longueurs de plusieurs kilomètres. Et ce dont il rêve, c'est pas du tout de transmettre des signaux morse. C'est insuffisant pour Tesla. Lui, il veut transmettre carrément l'énergie à distance. Il veut transmettre des kilowatts. Accessoirement, il ne dédaigne pas de jouer avec les ondes amorties, avec les éclateurs, et quand même, il se franchit une longueur de 35 km en 97, n'est-ce pas? Donc 2 ans avant la traversée de la Manche par le fameux télégramme de Marconi, sur des longueurs d'onde de 150 mètres. Voilà, c'est donc Tesla qui bat les records de Marconi. La preuve en est que la compagnie Marconi sera obligée de racheter les brevets, comme d'autres brevets d'ailleurs. Reste à expliquer l'échec social de Tesla. Avait-il vu trop grand, trop vite, ou poursuivi deux rêves à la fois, qui est de transmettre l'énergie, c'est-à-dire des kilowatts pour faire marcher les machines, et puis cette énergie subtile et légère, l'énergie faible, mais qui sert à transmettre l'information. C'était quand même deux buts très différents. Était-il un mauvais gestionnaire? Il a englouti quand même les 150 000 dollars de la banque Morgan pour réaliser une liaison atlantique prématurée. Alors cette folie des grandeurs, il faut bien noter chez Tesla qu'elle s'accompagne d'une modestie personnelle, puisqu'il refuse en 1912 de partager le prix Nobel avec Edison. Et Tesla, homme d'application, comme d'ailleurs Marconi, s'humilie devant l'inventeur d'un nouveau principe. Il dit « Je ne veux pas avoir le prix Nobel avec un, moi qui ne fais que de l'application, avec un inventeur de principe. » C'est très beau. Cette pensée émue pour Tesla, n'est-ce pas? Pensons au suivant. Alors le suivant, c'est ce que j'appelle irrespectueusement le bon docteur Branly, parce qu'il est médecin aussi. Et il est médecin, dit sa biographie, parce que la physique ne paie pas, il est agrégé de physique, mais pour augmenter ses revenus, n'est-ce pas, il s'est fait docteur. Alors le bon docteur Branly, il apparaît comme l'accessoiriste typiquement génial. Tout comme Hertz portait sa petite spire, le docteur Branly apporte son petit tube, un petit tube en verre que j'aimerais imaginer qu'il avait chipé à quelques laboratoires de biologie. Dans ce tube, de la limaille. Qu'est-ce que vient faire un petit tube en verre avec de la limaille dans ce bazar des ondes? Eh bien, c'est que quand au voisinage de l'équateur, les petites limailles qui ne conduisent pas le courant d'habitude se mettent à conduire le courant. Bon, explication simple, puisqu'il y a des petites étincelles par sympathie, il y a des petites étincelles dans la limaille, ça fait des petites soudures, mais elles sont fragiles. Et après avoir donc s'être ressoudé, la limaille ne peut plus servir à rien. Mais il suffit de taper dessus. Alors toutes les petites soudures de la limaille se cassent et la limaille redevient apte à être ressoudée par le deuxième signal. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler un cohéreur, ou de manière plus savante, le radioconducteur, ne fonctionne qu'une fois. Et il faut le décohérer, il faut taper dessus. Donc, tous ces messieurs avec leurs accessoires incroyables, cette espèce de marché aux puces, non seulement le petit tube de limaille de M. Branly est capital, mais, détail vraiment piquant et incroyable, il faut taper dessus chaque fois qu'il a servi pour qu'il resserve.
Je suis heureux de saluer ici la naissance de la Corporation de la Télégraphie sans fil. Pour la première fois aujourd'hui, nous voyons grouper tous les artisans de la radio, aussi bien manuels qu'intellectuels, chercheurs, techniciens, compositeurs, auteurs, artistes, journalistes, simples auditeurs. Parmi ces artisans, il est même des héros, ces admirables radiophonistes de l'aviation, de la marine, de la guerre. Non contents d'être unis, les artisans de la radio ont voulu avoir une âme commune. Or, c'est de toute cette âme qu'ils s'inclinent et que je m'incline avec eux devant Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, patronne de la radio.
Alors, nous autres Français, nous aimons bien présenter Branly comme notre grand inventeur. Et en effet, c'est une pièce maîtresse, parce qu'ils ont été beaucoup, ils ont été plusieurs, n'est-ce pas, à penser aux antennes, aux prises de terre, les antennes supportées parfois par des ballons-sondes, etc. Ils étaient plusieurs. Mais il y a, pour le cohéreur, pour la limaille, il n'y a que Branly. Eh bien, qu'est-ce que dit Branly? Il dit à la Société française de physique, en 96, « Je n'ai aucune prétention à la découverte de la télégraphie sans fil, puisque je n'ai jamais songé à transmettre des signaux. » De sorte que Branly, homme de laboratoire, se concentrait sur sa limaille, s'intéressait avant tout à ce qu'il appelait déjà les contacts imparfaits, ce qu'on va appeler les semi-conducteurs, n'est-ce pas? Et il va jusqu'à refuser, lorsqu'on lui demande d'être le conseiller de la compagnie Marconi. Je trouve ça très fort. Très étonnant. Le suivant est Lodge. Alors c'est un autre qui s'intéresse guère non plus à la rentabilité, Oliver Lodge. Lodge, je l'imagine un peu comme Hertz, en plus évolué. Il porte aussi un bric-à-brac de laboratoire, des bouteilles de Leyde. alimentant un circuit oscillant et éclateur. Ça fait un peu rétro. À 2 mètres de distance, il y a un récepteur qui ressemble. Il utilise, parce qu'il a déjà pris le cohéreur de son prédécesseur, il se passe des accessoires, les accessoiristes. Il utilise le radioconducteur de Branly. Mais le mérite de Lodge, c'est d'avoir mis en valeur la résonance. Parce que ces étincelles, au début, c'était un peu n'importe quoi. Bon, on était tout près, il finissait bien par passer quelque chose. Mais quand on s'éloigne, il faut que les circuits sont accordés sur des longueurs d'onde semblables et pour que la résonance fonctionne, sans quoi il ne se passe rien. De sorte que Lodge, on doit à Lodge d'avoir mis dans le circuit une bobine réglable, un couplage inductif, une bobine à induction, dont on tourne, n'est-ce pas, tous les amateurs de TSF le savent, dont on tourne grâce à un bouton, plus ou moins la bobine qui induit dans l'autre, et c'est ainsi qu'on accorde le circuit à telle longueur d'onde. Lodge a pris des brevets, dont on découvre en 1911 l'antériorité, et que la compagnie Marconi devra aussi racheter. Ce qui prouve bien que Marconi a hérité ses prédécesseurs. Alors, je pense que pour continuer nos présentations amicales, n'est-ce pas, et ironiques, il faut se représenter Lodge avec un petit bouton à la main, un petit potentiomètre, celui que vous tournez, chers auditeurs, quand vous passez de France Musique à France Culture.
Bonjour, mes chers auditeurs, bonjour.
Bonjour.
Ce n'est qu'un détail, mais il a bien son importance. Alors, Lodge lui-même, qu'est-ce qu'il est devenu ? Eh bien, la perfide Albion, sa patrie, lui avait refusé l'hospitalité de sa découverte, l'avait envoyé se faire voir aux Indes. Bon, arrivé aux Indes, il a continué un petit peu à faire de la TSF à sa manière, mais il avait des choses plus sérieuses, des préoccupations plus sérieuses, il s'est consacré entièrement à la métaphysique et à la parapsychologie. Voilà pour l'œuvre. Alors vient Popov, n'est-ce pas, le grand Popov, grand par la taille en tout cas, qui reprend à son compte les travaux de Branly et de Lodge. Il enseigne la physique à l'école des officiers torpilleurs de la marine russe à Kronstadt. Et c'est bien lui qui, en 95 et 96, donc tout à fait synchrone avec Marconi, parce que tout ça se tient dans un mouchoir de poche, n'est-ce pas, il réalise, on peut dire le premier, la première expérience de télégraphie sans fil, c'est-à-dire que c'est le premier qui introduit un signal morse et qui fait passer un message, et ce message est tout à fait touchant. Le 24 mars 96, il envoie deux mots, Heinrich Hertz. Alors, le dernier venu, il faut quand même le nommer, c'est Ducretet. Alors, je vois Ducretet, moi, enfin, un Français, avec son petit camarade Eiffel qui tient par la main avec un col marin, hein, parce que Eiffel avait un jouet qui est la tour, bien entendu, et on allait la démolir, la tour. Et le brave Ducretet a sauvé le jouet de son petit camarade Eiffel. Eiffel avait construit la tour Eiffel, c'est entendu, mais on ne savait pas du tout à quoi ça servait la tour Eiffel, sauf à l'exposition. Et Ducretet, lui, savait très bien à quoi il allait faire servir la tour Eiffel. Quel meilleur pilote! Et le champ de Mars, quelle belle prise de terre.
Georges et Robert ont été initiés aujourd'hui au phonographe. Je n'ai jamais vu d'étonnement plus grand que leur. Ils en ouvraient des yeux tout ronds. Ils se demandaient où pouvait être caché le bonhomme qui parlait ou qui chantait si bien.
Ces messages, comme issus eux-mêmes d'un autre monde, ces voix de l'au-delà très tôt apparues grâce au phonographe et au cylindre, ici c'était Eiffel en 1891, témoignent d'une accélération de l'histoire, d'une progression géométrique de la transmission des ondes. Au cœur de la Maison de Radio France, à Paris même, le musée de la radio fait saisir en quelques galeries et grâce à de nombreux et pittoresques souvenirs, la magie de cette équipée hertzienne. Nous y avons rencontré Roger Herbeau devant une grande photo où l'on voit Eugène Ducretet et ses machines au haut de la tour Eiffel.
C'est en 1898 que, pour la première fois, un message télégraphique par les ondes a passé au-dessus de la capitale à Paris. Et même, c'était le premier message par les ondes transmis en France.
Entre donc les deux points, c'est le Panthéon.
Entre la tour Eiffel et le Panthéon.
On a une photo qui est une photo authentique où on voit trois manip... deux... de manipulateur.
Cette photo est une photo authentique. Ce que l'on voit là, au sommet de la tour Eiffel, c'est un gardien de la tour Eiffel qui tourne le dos.
Qui regarde le panorama
et qui ne se rend certainement pas compte du tout de l'importance primordiale de l'expérience qui est en train de se dérouler.
Et puis sur une petite table, alors on peut essayer de décrire sur une petite table...
En redingote, devant un appareil d'émission, de réception, un appareil d'émission, c'est Ernest Roger. Ernest Roger qui était le collaborateur direct d'Eugène Ducroté. Et Eugène Ducroté, lui, se trouvait au Panthéon. Nous avons ici sa photo et nous avons sa photographie à côté du récepteur, voyez-vous, d'un des récepteurs qui a servi. Et vous pouvez constater que le récepteur qui est en dessous, qui nous a d'ailleurs été confié au musée de Radio France par le petit-fils de Eugène Ducroté, est exactement le même, c'est le numéro 2. C'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2.
Le numéro 2. Alors on voit d'ailleurs, il est en train de tenir une... Qu'est-ce que c'était exactement?
Il tient simplement un ruban de télégraphe Morse. Vous voyez, le récepteur recevait le message et le recevait à l'aide du... toujours à l'aide du cohéreur de Branly. Vous le voyez, c'est ce petit bâton noir là qui se trouve devant, c'est un cohéreur de Branly. Et ce message actionnait un télégraphe Morse qui, au lieu d'être actionné par le fil, était actionné par la sans fil. On avait coupé le fil,
On a le texte et la transcription du Morse en alphabet. Sacré-Cœur, Église Sainte-Anne de la... Maison Blanche.
Ah oui, alors ceci, Église Sainte-Anne, c'est autre chose, c'est le télégramme de la deuxième liaison. Car évidemment, l'histoire retient cette date du 5 novembre 1898, parce que c'est là que pour la première fois, il y a eu cette liaison. Mais en réalité, c'était une liaison de 4 km. Un mois plus tard, il y avait une liaison que faisait Eugène Ducroté entre le Sacré-Cœur de Montmartre et l'église Sainte-Anne qui se trouve rue de Tolbiac, et il y avait une liaison de 7 km. Et ensuite, Ducroté a fait diverses liaisons, la marine s'est intéressée à ses travaux, et il a fait des liaisons en mer de 22 km, de 40 km. Et il y a même là un texte de télégramme que Ducroté a envoyé au lieutenant de vaisseau Tissot, et il lui disait, et c'est concluant, etc. Bon, dites à ministre que nous ferons aussi bien que les Anglais avec crédit. Et les Anglais, eh bien les Anglais, c'était Marconi.
Roger Herbault, une autre vitrine, là aussi un appareil historique. Il s'intitule récepteur multisystème avec avertisseur automatique.
Ah oui, alors ça c'est un récepteur d'amateur. C'est un récepteur d'amateur qui nous a été confié et qui a été donné au musée de Radio France par son constructeur qui vit toujours, qui est Monsieur Veil.
C'est une grande planche en bois d'un demi-mètre.
Cela a été fait en 1912. Et c'était un récepteur multi. Pourquoi ? Parce que le constructeur amateur avait centralisé là-dessus, si vous voulez, tous les systèmes de réception connus à l'époque. Il y avait le fameux cohéreur de Branly. Il y avait également le détecteur électrolytique que le général Ferrier avait mis au point en 1900. Et il y avait la galène, la célèbre galène qui a été mise au point, elle, en 1910 par l'américain Picard. Ce n'est jamais qu'un cristal de sulfure de plomb que l'on trouve partout.
Il y a même une petite sonnette, alors c'est...
Alors voilà, ce qui se passait. Lorsqu'il y avait une émission, parce que les émissions de radio n'étaient pas très régulières, eh bien, le cohéreur de Branly devenait conducteur, et la sonnette se mettait à sonner. Alors, notre radio amateur savait qu'il y avait une émission. Et il allait ensuite décrocher son écouteur, et il écoutait du télégraphe Morse. Car ce n'était que cela à cette époque-là. Et puis cet appareil était là, et puis un beau jour, en décrochant son écouteur, en utilisant la galène, ce monsieur a entendu du violon. La tour Eiffel se mettait à faire de la phonie.
Thank you.
y a tout un aspect aussi qui est très important pour Marconi, c'est tout de même le côté industriel, parce que ça a été aussi un homme d'affaires, un industriel. Il a tout de suite vu un certain nombre d'applications sociales, bien sûr militaires, bien sûr pour les communications, les postes, mais aussi sociales de son invention.
Oui, il a été aussi homme d'affaires. Mais on ne peut pas dire que il était plus que tout rechercheur, vraiment. La partie industrielle, la partie financière était à côté, n'a jamais été la chose la plus importante pour lui. Et il a aussi eu de la chance en trouvant des personnes qui l'ont aidé en cela. Par exemple, les directeurs, parce qu'il a il a tout de suite formé une compagnie. Et il a toujours eu du flair pour trouver l'homme juste pour faire le directeur de la partie financière, disons.
Une grande intelligence. Est-ce que c'était un homme curieux des êtres? Je veux dire, est-ce que pour un être très organisé qui vivait dans le monde scientifique et dans le monde également donc industriel, commercial, est-ce qu'il était très curieux des hommes, des autres?
Oui. Il faisait très facilement amitié. Je dois dire que quand il est jeune, il avait ce pouvoir de communication et de faire des amitiés. Plus tard, peut-être, il a perdu cela.
Est-ce que, par exemple, votre père, Madame Marconi, a rencontré le grand Popov, qui était aussi un des champions de la télégraphie sans fil et qui est revendiqué comme l'inventeur de la radio par les Russes eux-mêmes aujourd'hui, puisqu'il y a un musée qui porte son nom à Moscou?
Oui, il a rencontré Popov, mais il est allé sur le Carlo Alberto. Il faisait des expériences et ils sont allés jusqu'en Russie. Et M. Popov est venu le saluer, mais je sais que Popov, quand il l'a vu, lui a dit « Je suis très heureux de rencontrer le père de la radio ». Il n'a jamais, lui-même, Popov, n'a jamais pensé ni dit que c'était lui qui avait inventé la radio.
Et puis il y a eu bien sûr la consécration, enfin l'une des consécrations de Marconi, ça a été l'attribution du prix Nobel avec un autre...
Oui, avec un Allemand que je crois qui s'appelait Braun. Mais je ne crois pas que mon père au commencement pensait que c'était juste parce qu'il pensait que ce Braun n'avait pas fait beaucoup. Et je sais qu'il y avait un peu de froideur entre eux quand ils sont allés à Stockholm pour recevoir-le. Mais puis il a fait amitié avec ce monsieur Braun et ils ont fini pour être grands amis.
C'était donc en 1909 le Nobel.
En 1909.
Votre père avait...
Je crois qu'il avait 34 ans.
En ce qui concerne les précurseurs, il y a quand même un point important à noter, c'est que Marconi, semble-t-il, avait conscience que les précurseurs n'avaient pas du tout cherché à appliquer leurs trouvailles et leurs résultats.
Il disait que c'était une chose si simple qu'il ne comprenait pas comment les autres n'étaient pas arrivés avant lui. Ça, il le disait. Mais qu'il n'était pas intéressé dans la théorie, qu'il était beaucoup plus intéressé dans la pratique, de voir comment on pouvait le mettre en pratique, cette idée. Parce qu'on disait que les ondes courtes, par exemple, n'étaient pas
très
intéressantes. Et cela l'intéressait beaucoup, surtout au commencement. C'était pour sauver les vies humaines. Et les navigateurs étaient tellement isolés une fois. Et la radio leur donnait le contact avec le monde.
Le Titanic a été, bien sûr, il est passé par le fond, mais tout de même, il y a eu ce fameux SOS qui a été lancé. On a recueilli, je crois, peu de survivants, mais grâce à la radio. Enfin, disons, à la télégraphie sans fil.
Oui.
Votre père en parlait de cet épisode?
Ah oui, beaucoup.
Il grande transatlantico inglese Titanic andò a cozzare contro un iceberg. la stazione trasmittente di bordo impedì che la tragedia fosse totale. Su 3.000 persone, 2/3 dei passeggeri e dell'equipaggio furono salvi. Ma, come sempre, le invenzioni dell'uomo possono essere usate per dare la vita e la morte.
Ça a été très important dans la vie de mon père, avant tout parce qu'il a pu sauver à travers cette invention plus de 1000 personnes, je crois. C'était déjà un bon nombre. Et aussi parce que ça a porté au monde à l'importance de cette invention.
Les ondes facteurs et vecteurs de sécurité, Marconi n'aura jamais cessé d'exercer sa vigilance en ce domaine. Aujourd'hui, dans le monde de la défense armée, dans celui de la météorologie, entre autres, le morse, comme au bon vieux temps, reste nécessaire. Nous nous sommes rendus à La Rochelle, sur l'un des 4 navires météo stationnaires, où le commandant Hamon nous attendait devant un radiocompas, instrument goniométrique, qui reste important pour la navigation des bateaux et des avions.
On met un accord, ça on met le volume. Ici, vous avez la rectification du signal, si vous voulez, voyez. Là, je le dérègle, là, il est réglé. Et alors après, on choisit celui du signal, parce qu'il y a deux possibilités, comme dans les radios, à toujours à 180 degrés près. Alors, on choisit celui, voyez, on a des moyens ici, voilà, là. Et alors là. Alors, voyez-vous, le vrai est sur le faible. Alors là, alors ici, on a donc, on relève ce signal, les baleines, dans le 263. Oui, alors naturellement, ce truc-là et cette couronne-là est asservie au gyro. Vous pouvez être soit là ou soit de l'autre côté.
Oui, 180.
Alors, c'est la raison pour laquelle on a des levées de doute ici. Et cet instrument est encore celui, quand on fait des recherches pour des bateaux en perdition, c'est encore le seul moyen efficace qu'on ait pour l'identifier. On lui demande à ce navire d'émettre un signal n'importe lequel sur une fréquence que l'on possède ici, et à ce moment-là on le relève, si vous voulez, l'opérateur, on est en phonie avec lui, on lui dit allez-y, allez hop, alors on voit son signal, on le gognote, et par rapport à nous c'est la direction dans laquelle il faut prendre. Très 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 souvent d'ailleurs on ne relève pas sa direction, mais on bouge, on vient au cap dessus de telle manière à l'avoir droit devant. Voyez-vous ? Et après, une demi-heure après, on lui demande, allez, recommence. Alors à ce moment-là, on voit très bien son signal part d'un côté, part de l'autre, et on modifie le cap en fonction. Et dans la brume, quand il n'y a pas tellement de visibilité, c'est certainement très utile dans la recherche des navires en détresse.
Oui.
Alors là, on est sur 16, là. C'est le canal de sécurité de la VHF. Et... ça, c'est le bureau du port qui est en liaison avec le pilotage. Voilà. Alors, c'est sur ce canal que se font tous les appels. C'est un peu le rendez-vous, si vous voulez. Et après, suivant les besoins, on dégage sur une autre fréquence. Alors, voyez, généralement, le pilotage, lui, il appelle... Quand un bateau arrive à La Rochelle, il fait son appel sur 16, il appelle... Vous tenez pilote Charente, vous entendez ? Tout à l'heure, on va entendre pilote la palisse, et ici, tel navire, ou... Et alors, ils demandent ce qu'ils veulent, soit rentrent en relation avec le port, soit avec le pilotage, et à ce moment-là, ils dégagent. Ça, c'est la fréquence qui est la plus vivante, naturellement.
Et avec la VHF, d'ailleurs avec d'autres zones, mais avec la VHF, on peut aussi basculer sur un réseau téléphonique PTT.
Ah oui, alors maintenant, naturellement, on peut appeler des stations comme Saint-Lys,
Sur onde courte, il n'y a aucun problème. On finit par, on a maintenant une qualité de transmission qui équivaut à celle d'un téléphone à terre. Hein. Très souvent, quand on téléphone comme ça avec ma femme me dit, mais tu as l'impression d'être tout près. Et bien souvent, on se trouve dans l'océan Indien ou n'importe où. Hein.
Commandant Hamon, vous êtes le capitaine donc, de ce Français, en tout cas d'un navire météo stationnaire.
Oui, c'est bien. 10, 2 x 5, 10.
Alors vous, en tant que marin, vous avez aussi une autre mission qui est une mission, on pourrait simplifier en disant que c'est une mission de sécurité par rapport aux autres bateaux.
Oui, ces bateaux,
et aux gens de la mer.
Oui, on fait, en somme, une assistance assez constante et à mon avis très efficace dans cette zone. Et je vois même avec les courses. Avec les courses transat, celles qui se multiplient, voire même les expériences solitaires, où on intervient très très souvent. Hein.
La dernière transat en double, commandant Hamon, on a vu d'ailleurs que la radio était importante, puisque les concurrents sont arrivés très près les uns des autres, après je ne sais pas combien de jours de mer, au port, enfin à l'arrivée. Vous-même, il vous est arrivé donc lors de cette transat en double de porter assistance directement à l'un des bateaux.
Oui, on portait assistance. L'assistance la plus caractéristique et la plus importante a été celle qu'on a portée au Charles Hetzig, qui était le plus grand trimaran du monde, je crois, hein, autant que je me rappelle. Il s'identifiait comme ça. C'était un bateau très important. Et ils avaient cassé un des bras de leur flotteur. Et ils étaient vraiment en perdition. Et ils avaient adressé, sur la fréquence de détresse de la phonie qui est 21-82. Mais personne dans la portée, si vous voulez, de ce bateau-là ne pouvait les entendre. Et c'est notre radio, du fait que nous faisons une veille radio permanente, c'est ce qui est très important. On le fait parce que, disons, il faut envoyer des bulletins météorologiques constamment, mais on le fait aussi parce que, par la même occasion, on fait surtout de la sécurité en même temps. Hein. Et ce sont des veilles, on veille aussi bien le 500 kilocycle que le 23-21-82, que le 23-21 quelquefois, quand on sait qu'il y a des pêcheurs dans le coin qui ont besoin de communiquer. En somme, on fait une couverture très efficace au point de vue veille sécurité. Et alors, pour en revenir au Charles Hetzig, cette fois, c'est un midi, autant que je me souvienne, le radio m'alerte qu'on avait une détresse sur 21-82. On a réussi à rentrer en contact avec le Charles Hetzig, qui nous a expliqué tout. On a fait route sur eux et on a surtout, on a fait le branle-bas à tout le monde dans le coin. On a alerté le Conquer Radio, je crois le Crossa et elle aussi avait été alerté. Le Crossa a dû aussi sec rentrer en communication avec les Anglais qui étaient en somme les plus proches, si vous voulez, du point de détresse. Ouais. Et je crois que dans les 2 heures qui ont suivi, il y a eu un avion qui a réussi à détecter le Charles Hetzig.
Oui, et puis j'imagine quand même, commandant Hamon, que vous êtes prisé aussi, bien que stationnaire, et peut-être à cause de votre fixité, vous êtes prisé par le fait qu'il y a simplement un médecin à bord aussi. Alors, là aussi, les ondes interviennent par VHF.
On donne très fréquemment des consultations médicales. Comme on fait une veille permanente, on est disponible 24 heures sur 24 pour ces choses-là. Et je dois dire que beaucoup en profitent et on est content de rendre service. Et ça, c'est une chose très importante. Du fait qu'on ait 3 radios, si vous voulez. On a une couverture de 24 heures que ne peut pas avoir un bateau normal, marine marchande, parce que le radio est seul, il fait donc 8 heures d'écoute par jour. Et autrement, il confie son écoute à une auto-alarme. Seulement le 21-82 ne réagit pas sur l'auto-alarme, malheureusement, quoi.
On est devant ce...
Devant les restes d'une morceau du bateau qui s'appelle Elettra, sur lequel Marconi a fait
des quantités de voyages et d'expériences.
Il a vécu sur l'Elettra.
Mario Baldini à la Fondation Marconi de Bologne.
Pendant ses voyages, il est allé à Fiume. Fiume, c'était à la fin de la guerre de 1915-18.
La constitution de Fiume, de D'Annunzio.
Oui, D'Annunzio, était on avait encore décidé ce qu'on pouvait en faire, mais D'Annunzio, qui était un patriote, il était un peu fou, il est allé à Fiume, il s'est placé là, et alors Marconi est allé le visiter, parce que tous les Italiens étaient enthousiastes. Et alors D'Annunzio, qui l'a reçu, et qui était vraiment un exceptionnel
personnage.
Il était fou complètement, il était un personnage, pourtant. A dit que cette phrase, que j'ai mis là-dessous, la candida nave qui navigue nel miracolo et anime i silenzi et terre del mondo, le navire blanc, qui navigare, c'est nager, nel miracolo, dans les miracles, c'est quelque chose de miraculeux, c'est que, et anima i silenzi et terre, et donne une âme au silence, etere, dell'etere, del mondo. Quindi c'est une phrase vraiment, detta in italiano, très, très significative.
C'est une partie du bateau, une partie de la coque.
Exact.
Assez large, puisque quoi, ça fait une dizaine de mètres de large.
C'est un bateau assez important.
Qui faisait 120 mètres de long, le bateau, d'ailleurs.
Si, si.
Oui, un énorme bateau.
Alors, on nous a envoyé ces morceaux-là. Et c'est moi qui s'est dit, mais c'est un morceau d'un bateau. Nous le mettons dans l'eau. Et alors, nous avons fait cette espèce de piscine.
Petit bassin,
qui, dans lequel on ne pouvait pas la plonger dans l'eau parce qu'elle aurait fini pour se détruire.
Mais qui avait acheté au début ce navire pour les expériences, qui était un bâtiment absolument énorme?
Alors, je vous dis, la lettre était les bateaux personnels du prince héritier d'Autriche. Et naturellement, lorsque la guerre, je vous parle de la grande guerre, la guerre de 1915-18, lorsque la guerre est finie, le bateau est devenu preda de bellica, c'est-à-dire
prise de guerre.
On l'a vendu au meilleur offrant. Et Marconi l'a acheté.
C'est lui qui l'a acheté.
Lui, personnellement. Et puis après, il a eu tous les gens qui étaient sur le bateau, qui étaient choisis par lui.
Et ce sont des gens qui, en fait, sont restés pendant toute une partie de la vie de Marconi, qui l'ont accompagné dans toutes ses expériences. C'est un équipage qui a été assez fidèle.
Oui.
C'était quand même, en fait, la seule habitation de Marconi qui restait intacte d'une certaine façon.
Exact. Il avait une habitation à Rome, mais il n'y était jamais. Il a passé les dernières années de sa vie dans les lettres.
Su questa nave, nel corso di una lunga crociera nella Manica, nel Baltico, nel Mediterraneo e nell'Atlantico, potei inconfutabilmente provare che le zone continentali e le montagne interposte fra stazioni radiotelegrafiche non ne impedivano le comunicazioni. Si ebbe così la conferma di ciò che avevo da tempo intuito e che ora è divenuto realtà, e cioè non vi è distanza sulla Terra che le radiocomunicazioni non possano superare. Da quel giorno la scienza delle radiocomunicazioni ha fatto passi da gigante ed offre oggi all'umanità il più potente ed universale mezzo di rapida comunicazione a distanza che il mondo abbia mai conosciuto. Guglielmo Marconi.
Essayons de conclure sur la galaxie Marconi, celle auquel Bacluant, ce farceur, a donné le nom de Marconi. Ce sont tout simplement les masses médias. Si Marconi a été couronné fondateur des masses médias, c'est parce qu'en même temps, la qualité d'information et surtout la quantité d'information qu'il a permis lui ont servi à lui tout le premier. C'était lui le premier qui atteignait la notoriété mondiale par la voie de ses propres ondes. Alors, quel était le programme, comme nous dirions à Radio France? Information, grande information, première traversée de la Manche par TSF, puis les régates, le sport, les chanteuses sûrement, sport et musique, et puis consécration d'un autre sport, plus sérieux, le sport maritime, la marine bien entendu, passant de l'anglaise à l'italienne, ce qui fait plus sérieux, voire redoutable, qui fait penser, dire mais comment s'appelle ce jeune ingénieur italien que nous a présenté Sir William Preece, comment l'appelez-vous déjà, my dear, Marcino, Marconi? Ainsi se signalaient les masses médias dès l'origine, sérieuses et futiles, austères comme la technique, mais aussi très mondaines, menaçante, militaire, capitaliste, totalitaire, faite d'argent, d'ondes hertziennes, de bobines d'induction, de signaux morse, de petits tubes en verre, de paroles pour ne rien dire ou déclarer la guerre, de SOS perdus en mer, des appels de détresse, des appels au secours, des appels au meurtre, de rares protestations, de plus nombreuses proclamations. Oui, vraiment, entre les régates de Kingston et le sauvetage du bateau phare, entre le télégramme à Branly et la faveur de la reine-mère, Marconi avait bien mérité de la patrie humaine, que ses ondes, certes, hélas, n'allaient pas rassembler, mais vouées à bien d'autres folies.
Penser que c'était une chose qui pouvait être utile, mais jamais qui pouvait faire du mal. Souvent, il disait qu'on parlait trop. Il aimait, par exemple, la musique ou quand l'opéra et ces choses-là, mais il aimait plus le silence. Il disait souvent que c'était dommage qu'il avait rompu le silence du monde.
Un homme, une ville, un homme, un espace, celui des ondes, Guglielmo Marconi. Première de trois émissions, la découverte de la transmission par les ondes ou la naissance d'une invention. Avec comme invité Pierre Schaeffer, ancien directeur de la recherche de l'ORTF, Mario Baldini, Fondation Marconi de Bologne, et Madame Denia Parecce Marconi. Préparation Thierry Garcin, réalisation Jean-Claude Loiseau, prise de son Gilbert Arnold et Francis Parus, mixage Claude Massé et Raymond Anna.
Cette émission a été diffusée la première fois, le 2 mai 1980, sur France Culture. À suivre. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.